OK, oui, 11h02, bienvenue ou re-bienvenue dans le Point de Max sous le soleil à Québec, 24 degrés. 27 au ressenti et on pourrait aller chercher pour ce qui est du ressenti aux alentours de 30 aujourd'hui. Demain, c'est 28 degrés avec généralement des nuages. Jeudi, gros soleil, 28. Puis après ça, c'est pas un beau week-end à l'horizon. Là. Ça va être mouillé sur un pas pire temps. La bonne nouvelle, c'est que ça va être mouillé, mais pas trop fret. T'sais, de la pluie à 25 samedi, c'est moins pire que de la pluie à 12. Là, j'essaie vraiment d'aller chercher le positif là où il est, là, parce que pour en fin de semaine, il n'y en a pas beaucoup. Mais pour les trois prochains jours, si j'inclus aujourd'hui, là, donc aujourd'hui, demain et jeudi, c'est des méchantes belles journées qui s'en viennent sur Québec. Sur la route, tout me semble beau. S'il y a quoi que ce soit, 88-971-1021 par texto. Grosse heure qui s'en vient dans le Point de Max. Là, vous avez compris qu'Audrey Pinchot n'est pas là pour l'open mic aujourd'hui. Elle avait un petit rendez-vous. Fait que je me suis rempli ça pour être en bonne compagnie. En fin d'heure, on va jaser avec Joël Arsenault du Parti québécois, le PQ, qui dit « Nous autres, le TGV, ça nous intéresse pas, ça coûte trop cher, on a des affaires bien plus importantes à faire avec notre argent. » L'affaire, c'est que c'est un projet fédéral, le TGV. Donc, j'ai entendu Mélanie Joly tantôt dire « Ouais, ben c'est parce qu'on comprend pas trop, là, c'est de l'argent fédéral. » J'imagine que le Parti québécois va dire « Ben oui, mais avec nos taxes qu'on vous envoie, » ben vous nous payez le TGV. Ben nous autres, on vous dit, ben avec nos taxes qu'on vous envoie, vous devriez nous payer d'autres choses que le TGV. J'imagine que le discours ressemble un peu à ça. On va aussi discuter avec André Bernier, qui est président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Une couple de sujets sur la planche à découper avec M. Bernier. Et à l'instant, un collaborateur habituel qu'on aime beaucoup, il s'appelle Georges Mercier. Salut Georges.
Salut Max.
Fais-tu aussi beau et chaud du côté de Montréal?
Très beau, très chaud, très humide, l'été est bien commencé.
C'est le jour de la marmotte qui revient encore et encore, on a l'impression, en politique internationale. Dans les dernières heures, hier, quand on est rentré, en ce lundi matin, dans l'actualité, c'était « bon, ben là, nouvelle escalade, puis là, ça brasse avec l'Iran et Israël. » Et là, il y a un nouveau cessez-le-feu, finalement, qui est arrivé. Là, ça va-tu tenir ou c'est encore excessivement fragile?
Ben là, Max, c'est le jour de la marmotte, mais ce qui s'est produit hier, c'est assez significatif et assez ahurissant, en fait. Parce que pour faire la petite histoire, Israël est en guerre contre le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est une milice terroriste islamiste qui opère au Liban. Israël n'est pas en guerre contre le Liban. Israël mène des frappes contre le Hezbollah qui occupe des parties du territoire libanais. Le Hezbollah a un grand soutien, un grand allié, un grand financier, même un grand formateur. Je te le donne en mille, le régime des Mollahs à Téhéran, en Iran. Ce qui s'est passé hier, c'est que Israël a frappé le Hezbollah en réplique à des frappes sur son territoire. C'est des milliers d'Israéliens qui sont déplacés du nord d'Israël. Et l'Iran a décidé de frapper Israël pour répliquer aux frappes contre le Hezbollah. Okay? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'Iran qui, pour défendre son allié, s'attaque à Israël. Israël réplique, et là, ce qui est ahurissant, c'est ce qui se produit. Le président américain, Donald Trump, demande à Benjamin Netanyahou de ne pas lancer toute la réplique qu'il avait prévue contre l'Iran. Donc, essentiellement, Trump dit à Netanyahou, t'as beau t'être fait attaquer par le régime des Mollahs en Iran, tu ne peux pas frapper Téhéran comme tu souhaitais le faire. Donc, on vient tordre le bras à Benjamin Netanyahou, et c'est assez ahurissant parce que qu'est-ce que ça donne? Ça donne essentiellement un droit de veto au régime iranien sur la politique que mène Israël contre le Hezbollah au Liban. Pour le dire de même, ça donne un droit de veto à l'Iran sur comment Israël peut se comporter envers un pays qui n'est pas l'Iran, puis envers un pays et des alliés qui n'ont pas d'affaires de toute manière, je parle du Hezbollah, à s'ingérer dans la politique interne du Liban. Et ça, c'est assez surprenant parce que jusqu'à maintenant, les Américains soutenaient Israël tant bien que mal, puis on voyait rarement un président américain dire à un premier ministre israélien, quel qu'il soit, tu ne peux pas te défendre ou te défendre comme tu le souhaites contre un ennemi. Et ça, voilà, je le répète, c'est assez surprenant, puis c'est peut-être même un changement de grande ampleur.
Et là, la relation entre Trump et Netanyahou, qui est le premier ministre israélien, semble assez particulière. Là. Trump, c'est la semaine passée de mémoire où il a raconté qu'à un moment donné, il s'était mis à traiter Netanyahou de fou au téléphone. Puis on connaît le personnage de Donald Trump, puis ça nous jette pas à terre qu'il y ait des relations houleuses avec certains individus. Mais là, dans la situation où Netanyahou Daou est comme ton plus grand allié dans ton attaque contre l'Iran. C'est très particulier de te pogner de te pogner avec de même de la sorte.
Mais ce qu'il faut comprendre pour les auditeurs, c'est qu'il y a deux conflits au Moyen-Orient. Bon, il y en a plus que ça, mais il y a deux conflits principaux. Il y a le conflit entre les Américains et les Iraniens. Et là, l'enjeu principal, c'est le programme nucléaire iranien. Puis, il y a le conflit entre Israël et le Hezbollah. Le gros problème, c'est que les intérêts des Américains sont pas les mêmes que les intérêts des Israéliens. Parce que les Israéliens, ce à quoi ils veulent vraiment s'attaquer, c'est pas nécessairement le programme nucléaire iranien, c'est le programme de missiles balistiques avec lesquels l'Iran frappe Israël et le soutien des Iraniens aux milices comme le Hezbollah, comme au Yémen, qui menacent Israël. Les Américains, eux, veulent surtout une fin du programme nucléaire. Et ce qui se produit en ce moment, alors qu'on se parle, c'est que dans les négociations entre les Américains et les Iraniens pour mettre fin au conflit, on se concentre pas mal sur le nucléaire, à peu près plus du tout sur les missiles et les milices. Donc, Israël craint qu'il y ait un accord qui mettrait sa propre sécurité en danger, bien que ça permettrait à Donald Trump de dire « Écoutez, je suis rentré en Iran, ça aura pas été trop long au final, ils m'ont promis qu'il y aurait pas de programme nucléaire, je déclare victoire ». Mais ça, c'est intolérable pour les Israéliens. C'est ce qui explique pourquoi les deux s'entendent de plus en plus mal, parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et Benjamin Netanyahou, manifestement, n'aime pas se faire dire comment agir.
Dossier donc qu'on va continuer de suivre. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, Donald Trump qui a demandé au Sénat de nommer son ex-avocat Todd Blanche comme procureur général. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce move-là?
Moi, j'y vois clairement une provocation de la part du président Trump pour les sénateurs républicains qui auront à terme à confirmer Todd Blanche. Pourquoi une provocation? Parce que, bon, la chicane n'est pas pognée complètement entre Donald Trump et le Sénat américain. Néanmoins, on a eu plusieurs moments dans les dernières semaines où les sénateurs républicains ont voulu faire quelque chose d'assez surprenant depuis que Trump est revenu en place, c'est-à-dire faire preuve de courage et lui dire non. C'est quoi une des principales affaires sur lesquelles ils ont voulu lui dire non? C'est ce fameux fonds d'indemnisation. Bon, Trump dit que c'est pour dédouaner des personnes qui auraient été victimes d'une justice politisée. On peut discuter de ça. Mais au final, ce fonds-là de 1,8 milliard prévoyait de verser de l'argent à des gens qui, par exemple, auraient peut-être participé aux émeutes du 6 janvier 2021, lorsque des militants trumpistes, largement MAGA, avaient voulu assaillir le Capitole. Les sénateurs républicains avaient dit « ça n'a pas de maudit bon sens » et ils s'étaient opposés assez farouchement à Trump là-dessus. Et surtout, ils avaient vertement, ce qu'on a appris par la suite, vertement engueulé Todd Blanche, qui était celui qui avait été un peu l'architecte de l'accord. Et donc là, Trump s'en va vers eux et leur dit, cet homme-là, là, qui a fait ça pour moi, qui est farouchement loyal à moi, je veux que vous le confirmiez comme procureur général des États-Unis. C'est pas le bon moment, c'est un test de loyauté. Et le message que Trump envoie, c'est écoutez, est-ce que vous êtes vraiment mon parti républicain ou vous voulez vraiment me défier?
Puis c'est parce que je viens de ravoir le flash de ce qu'on a vu circuler pas mal en fin de semaine sur les réseaux sociaux, l'entrevue de Donald Trump avec une journaliste, est-ce que c'était à ABC, où il se pognait royalement avec une journaliste, puis t'as la poire vraie, parce que là, lui, il disait « Les élections ont été truquées », puis là, elle disait « C'est quoi les preuves? C'est les élections les plus truquées de l'histoire, j'ai les meilleures preuves de l'histoire. » Puis là, tu dis « Tabarouette », puis il finit par quitter. Ce manque de décorum-là, on l'a vu souvent à Donald Trump, on dirait que cette entrevue-là, en particulier avec la journaliste qui a circulé beaucoup dans les derniers jours, tu te dis « OK, mais ça va aller jusqu'où avant que une bonne partie de la population, notamment des républicains, se disent « OK, là, ça n'a plus de bon sens, il faut intervenir. Ce monsieur-là ne peut pas être un des hommes les plus puissants de la planète et diriger les États-Unis. »
En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne encore. Il faut dire que le paradoxe de la politique américaine, c'est que Donald Trump n'est pas apprécié. La majorité des Américains, son taux d'approbation est assez faible, même très, très faible en ce moment. Le problème, c'est que la base républicaine, les militants républicains, ceux qui votent lors des primaires, écoutent encore Donald Trump. Et Donald Trump contrôle le Parti républicain parce qu'il peut dire aux sénateurs, pas à tous, là, mais une grande majorité des partis des sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants, écoutez, si vous vous opposez à moi, je vais soutenir un candidat comme vous lors d'une primaire et vous allez perdre votre poste. Et ça, ça fonctionne parce que dans les faits, Donald Trump a un effet électoral très net sur les primaires. Lorsqu'il sélectionne un candidat, lorsqu'il soutient un candidat, ce candidat-là tend à gagner. Ce qui va se produire toutefois, deux affaires. D'abord, il y a des primaires qui ont déjà eu lieu, donc il ne peut plus menacer ces gens-là, ceux qui ont eu qui vont se représenter en élection, eux, leur siège est sauf pour l'élection. Deuxième élément, après les élections de mi-mandat, donc à l'automne qui vient, si les Républicains subissent une déconfiture immense, là, il va y avoir une véritable ambition de passer à autre chose par rapport à Donald Trump. Donc, peut-être qu'ils vont commencer à montrer des dents. Mais tant et aussi longtemps que les militants républicains soutiennent le président, ils contrôlent en grande partie son parti.
En terminant, Georges Mercier, tu voulais me parler de la fin d'un programme d'avions de combat commun entre la France et l'Allemagne. Puis, tu sais, c'est une nouvelle dont on n'a pas vraiment parlé ou entendu parler au Québec, mais pour toi, c'est quelque chose de quand même très significatif.
La grande question qui se pose pour les pays de l'Union européenne, c'est est-ce qu'ils sont capables d'agir ensemble pour acquérir la puissance qu'ils devraient avoir si on regarde juste sur papier leur richesse et leur puissance? Tu sais, Max, l'Union européenne, c'est quand même 27 pays assez riches. Il y a la France, il y a l'Allemagne. Bon, des pays qui ont beaucoup, beaucoup de ressources, mais qui pourtant sont comme pas capables d'exercer le poids qu'ils devraient exercer sur la scène mondiale. Pourquoi ils sont pas capables? Parce qu'ils ont bien de la misère à travailler ensemble. Et la fin de ce programme d'avions de chasse-là, qui était censé être de nouvelle génération, qui était conjoint entre la France et l'Allemagne, ça symbolise l'incapacité à agir de concert sur des projets d'ampleur. Et ce type de projet-là, c'est exactement le genre de choses que les Européens doivent apprendre à faire pour pouvoir défendre leurs intérêts plus fortement.
Georges Mercier, analyste politique, toujours un plaisir.
À bientôt, Max.
Salut, mon ami. Bienvenue dans le Point de Mac.